Le livre de Daniel, numéro 106.
Lever le voile sur le jugement. Du 11 septembre à la loi du dimanche, une analyse prophétique.
Le jugement investigatif des vivants a commencé le 11 septembre 2001 et le jugement exécutif commence lors de la loi du dimanche imminente. Ces deux périodes de jugement représentent l'œuvre du messager qui prépare la voie pour le troisième messager de l'Alliance et le troisième Élie, ce qui constitue l'achèvement de l'œuvre du messager Élie commencée dans l'histoire millérite. Dans l'accomplissement par le Christ du messager de l'Alliance, il a purifié à deux reprises le temple terrestre littéral qui préfigurait son corps et son temple spirituel. Son temple terrestre littéral a commencé avec le tabernacle du désert, puis le temple de Salomon, puis le temple qui a été reconstruit après les 70 ans de captivité à Babylone, et ce même temple après 46 ans de travaux de rénovation menés par Hérode. La présence physique de Dieu a béni le tabernacle et le temple de Salomon, mais pas le temple reconstruit après la captivité. Cependant, ce temple remanié a été béni par la présence physique du Christ. Dans l'histoire du temple remanié par Hérode, le Christ a purifié le temple à deux reprises, en accomplissement du chapitre 3 de Malachie. Lors de la première purification, le Christ a appelé le temple la maison de son Père, mais lors de la dernière purification du temple, il l'a appelé la maison des Juifs. Dans l'histoire des Millerites, Christ a édifié un temple spirituel en 46 ans, de 1798 jusqu'en 1844. Le 22 octobre 1844, en accomplissement du chapitre 3 de Malachie, il est soudain venu dans son temple, purifiant ainsi les vierges folles. Il est ensuite venu en tant que troisième ange pour accomplir la seconde et ultime purification. Mais, comme au commencement de l'Israël ancien, l'Israël moderne n'avait pas la foi nécessaire pour achever l'œuvre. Le 11 septembre 2001, le Christ est revenu afin d'accomplir la deuxième purification du temple, laquelle se produit lorsque les vierges folles sont purgées lors de l'imminente loi du dimanche, quand elles s'éveillent à la réalité qu'elles ne comprennent pas l'accroissement de la connaissance qui a été décelée en 1989. Cet accroissement de la connaissance représente le message de la pluie de l'arrière-saison, qui est le message du cri de minuit lorsqu'on le place dans le contexte de la parabole des 10 vierges. Le message des 6 derniers versets de Daniel 11, qui a été décelé au temps de la fin, en 1989, est représenté au verset 44, comme « des nouvelles venant de l'Orient et du Nord ». Le message de la pluie de l'arrière-saison est le message du cri de minuit, et c'est le message de l'Est et du Nord. L'Est et le Nord représentent respectivement l'Islam et la papauté. Et, en tant que message, il représente le message que l'adventisme laodicéen contrefait entre le 11 septembre 2001 et la loi du dimanche imminente. Le 11 septembre 2001 représente l'Islam, l'Est, et la loi du dimanche représente la marque de la bête, le Nord. Le lit de mort de l'adventisme laodicéen se situe entre ces deux jalons, comme le symbolise la mort du prophète désobéissant entre l'âne et le lion. Le lit de mort de ceux qui acceptent la marque de la bête est représenté par les nouvelles venant de l'Orient et du Nord qui mettent en fureur le pouvoir papal et déclenchent la persécution finale du peuple de Dieu. Ce message commence avec la loi du dimanche imminente aux États-Unis. C'est là, et c'est aussi alors, que l'islam du troisième malheur frappe soudainement. Cette attaque inattendue provoque la ruine nationale et met les nations en colère, fournissant ainsi l'élan économique et politique pour rassembler toutes les nations contre l'islam, sous les auspices de la triple union du dragon, de la bête et du faux prophète. Dans l'histoire représentée par le troisième Élie, le message qui identifie le troisième malheur informe le dragon, la bête et le faux prophète que l'islam est l'instrument du jugement que Dieu utilise pour punir les hommes de leur adoration de la marque d'autorité papale. Comme pour les trois Rome, les trois Babylone, les trois Élie interlus au chemin, le troisième malheur est établi par la triple application des trois malheurs.
« Et je regardais, et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui doivent encore sonner. » Apocalypse 8:13.
Sir White a vivement recommandé le livre de Smith, Daniel and Revelation, soulignant que chaque adventiste du septième jour devrait posséder ce livre, bien qu'elle ne l'ait pas exprimé aussi directement que je viens de l'écrire. Le fait n'en demeure pas moins présent dans son approbation.
Le Seigneur appelle des ouvriers à entrer dans le champ du colportage afin que les livres contenant la lumière de la vérité présente soient diffusés. Les habitants du monde ont besoin de savoir que les signes des temps s'accomplissent. Apportez-leur les livres qui les éclairiront. Daniel et l'Apocalypse, la grande controverse, patriarche et prophète, et le désir des âges devraient maintenant aller dans le monde. le grand enseignement contenu dans Daniel et l'Apocalypse a été lu avec empressement par de nombreuses personnes en Australie. Ce livre a été le moyen d'amener de nombreuses âmes précieuses à la connaissance de la vérité. Tout ce qui peut être fait devrait être fait pour diffuser pensées sur Daniel et l'Apocalypse. Je ne connais aucun autre livre qui puisse remplacer celui-ci. C'est la main secourable de Dieu. Ceux qui sont dans la vérité depuis longtemps sont endormis. Ils ont besoin d'être sanctifiés par le Saint-Esprit. Le message du troisième ange doit être proclamé d'une voix forte. D'immenses enjeux sont devant nous. Nous n'avons pas de temps à perdre. À Dieu ne plaise que nous laissions des questions secondaires éclipser la lumière qui doit être donnée au monde. Manuscript Releases, volume 21, 444.
Le livre que ceux qui rejetaient l'interprétation millérite du quotidien dans le livre de Daniel avaient également rejeté a été identifié comme « la main secourable de Dieu ». Si le peuple de Dieu a reçu la responsabilité de faire circuler les livres mentionnés dans la citation précédente, cela signifie que le peuple de Dieu devrait posséder ce livre lui-même. Ce livre a été la cible de l'attaque de ceux qui promouvaient la nouvelle interprétation du quotidien dans le livre de Daniel, car c'était le livre qu'ils désiraient réécrire afin d'en retirer l'interprétation correcte du quotidien. Lorsque Sir White évoquait les deux principaux dirigeants de la rébellion concernant le quotidien dans le livre de Daniel, elle soulignait souvent qu'ils, Prescott et Daniels, n'avaient pas la capacité de raisonner de cause à effet. Les révisionnistes historiques adventistes laodicéens semblent avoir le même problème. Les hommes de premier plan, qui tout au long de l'histoire de la rébellion depuis 1888 et au-delà, avaient, à un moment donné de leur expérience personnelle, accepté le faux enseignement du quotidien. Leur rébellion était l'effet, et la mauvaise compréhension du quotidien en était la cause. Les révisionnistes adventistes laodicéens amènent les peu instruits à croire que ces mêmes rebelles historiques de l'histoire adventiste n'étaient en réalité pas en rébellion, bien que leur témoignage révisé ne soit jamais étayé par le témoignage de la Bible et de l'esprit de prophétie. Parce qu'ils ne considèrent pas l'effet comme une rébellion, ils écartent la possibilité de rechercher la cause.
Comme l'oiseau qui erre, comme l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause ne viendra pas. Proverbe 22:6.
Le peuple de Dieu doit reconnaître la rébellion, et lorsqu'il le fait, en rechercher la cause. Puis, il doit y remédier. Dans le passage suivant, Sir White commente l'histoire d'Achan.
Il m'a été montré que Dieu illustre ici la manière dont il considère le péché parmi ceux qui professent appartenir à son peuple, qui gardent ses commandements. Ceux qu'il a spécialement honorés en leur accordant de voir les remarquables manifestations de sa puissance, comme l'ancien Israël, et qui oseront malgré cela mépriser ses directives explicites, seront l'objet de sa colère. Il veut enseigner à son peuple que la désobéissance et le péché lui sont extrêmement odieux et ne doivent pas être pris à la légère. Il nous montre que, lorsque son peuple est trouvé dans le péché, il doit aussitôt prendre des mesures résolues pour ôter ce péché du milieu de lui, afin que sa désapprobation ne repose pas sur tous. Mais si les péchés du peuple sont passés sous silence par ceux qui occupent des postes de responsabilité, sa désapprobation sera sur eux, et le peuple de Dieu, en tant que corps, sera tenu responsable de ses péchés. Dans ses relations passées avec son peuple, le Seigneur montre la nécessité de purifier l'Église des torts. Un seul pécheur peut répandre des ténèbres qui excluront la lumière de Dieu de toute l'Assemblée. Lorsque le peuple réalise que les ténèbres s'abattent sur lui et qu'il n'en connaît pas la cause, il devrait chercher Dieu avec ardeur, dans une grande humilité et un profond abaissement de soi, jusqu'à ce que les torts qui attristent son esprit soient découverts et écartés. Le préjugé qui s'est levé contre nous parce que nous avons repris les torts dont Dieu m'a montré l'existence, ainsi que le tollé suscité au sujet de la dureté et de la sévérité, sont injustes. Dieu nous ordonne de parler, et nous ne nous tairons pas. Si des torts sont apparents parmi son peuple, et si les serviteurs de Dieu passent outre avec indifférence, ils soutiennent et justifient en fait le pécheur, et sont tout aussi coupables et recevront tout aussi sûrement le déplaisir de Dieu, car ils seront rendus responsables des péchés des coupables. En vision, il m'a été montré de nombreux cas où le déplaisir de Dieu a été encouru parce que ses serviteurs ont négligé de traiter les torts et les péchés qui existaient parmi eux. Ceux qui ont excusé ces torts ont été considérés par le peuple comme très aimables et d'un caractère agréable, simplement parce qu'ils ont évité d'accomplir un devoir clair selon l'Écriture. Cette tâche leur déplaisait, c'est pourquoi ils l'ont évité. Témoignage, volume 3, 265.
Des histoires de dirigeants qui se sont rebellés dans l'adventisme témoignent du fait que l'une des étapes presque toujours observées dans leur rébellion est qu'à un moment donné de leur expérience personnelle, ils ont accepté la fausse conception de « The Daily ». Cela dit, le livre de Smith, bien que non inspiré et comportant certains problèmes doctrinaux, offre néanmoins un excellent aperçu de la compréhension des pionniers des chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, où l'histoire prophétique des six premières trompettes est exposée. Nous nous référons aux commentaires de Smith tirés de son livre « Daniel and Revelation », alors que nous commençons à considérer l'application triple des trois malheurs.
Sir White nous informe que William Miller a reçu un grand lumière sur le livre de l'Apocalypse, mais sa compréhension des chapitres 13 et 16 et 10 était erronée, car il n'était pas au bon point de vue historique pour voir qu'il y a trois et non deux puissances désolatrices. Sa grande lumière portait sur les chapitres 2 et 9 de l'Apocalypse.
Les prédicateurs et le peuple ont considéré le livre de l'Apocalypse comme mystérieux et de moindre importance que d'autres parties des Saintes Écritures. Mais j'ai vu que ce livre est bel et bien une révélation donnée pour le bénéfice particulier de ceux qui vivraient dans les derniers jours, afin de les guider dans le discernement de leur véritable position et de leurs devoirs. Dieu a dirigé l'esprit de William Miller vers les prophéties et lui a accordé une grande lumière sur le livre de l'Apocalypse. Premiers écrits, 231.
Miller expose sa compréhension des églises, des sceaux, des trompettes et des coupes comme suit.
Les sept églises d'Asie constituent une histoire de l'Église du Christ sous ses sept formes, dans tous ses détours et ses méandres, dans sa prospérité comme dans son adversité, depuis les jours des apôtres jusqu'à la fin du monde. Les sept sceaux sont l'histoire des actions des puissances et des rois de la terre à l'égard de l'Église et de la protection de Dieu sur son peuple pendant la même période. Les sept trompettes sont l'histoire de sept jugements particuliers et sévères envoyés sur la terre ou royaume romain. Et les sept coupes sont les sept dernières plaies envoyées sur la Rome papale. S'y mêlent bien d'autres événements, qui s'y tissent comme des effluents et viennent grossir le grand fleuve de la prophétie, jusqu'à ce que l'ensemble nous conduise à l'océan de l'éternité. Ceci, pour moi, est le plan de la prophétie de Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et l'homme qui souhaite comprendre ce livre doit posséder une connaissance approfondie des autres parties de la parole de Dieu. Les figures et les métaphores employées dans cette prophétie ne sont pas toutes expliquées en elles-mêmes, mais doivent être trouvées chez d'autres prophètes et expliquées par d'autres passages de l'Écriture. Par conséquent, il est évident que Dieu a voulu l'étude de l'ensemble, ne serait-ce que pour obtenir une connaissance claire de n'importe quelle partie. William Miller, Miller's Lectures, volume 2, conférence 12, 107 007.
De même que le troisième messager, qui prépare la voie au messager de l'Alliance, représente l'histoire interne du jugement de l'Église, par opposition au troisième Élie, qui représente une histoire externe dans le jugement de Babylone moderne. La compréhension pionnière des Églises et des sceaux a identifié le même témoignage interne et externe.
Les sceaux sont portés à notre connaissance dans les chapitres 4, 5 et 6 de l'Apocalypse. Les scènes présentées sous ces sceaux sont écrites dans l'Apocalypse 6, ainsi que dans le premier verset de l'Apocalypse 8. Elle couvre évidemment des événements en rapport avec l'Église, depuis l'ouverture de cette dispensation jusqu'à la venue du Christ. Tandis que les sept églises présentent l'histoire intérieure de l'Église, les sept sceaux mettent en lumière les grands événements de son histoire extérieure. Uriah Smith, l'Institut biblique, 243.
Uriah Smith identifie la compréhension millarite des relations internes et externes des Églises et James White présente un aperçu similaire en termes d'histoire parallèle.
Nous avons maintenant retracé les Églises, les sceaux et les bêtes, ou êtres vivants, dans la mesure où ils se laissent comparer comme couvrant les mêmes périodes de temps. Les sceaux sont au nombre de 7, les bêtes n'étant qu'au nombre de 4. Et il convient ici de remarquer qu'à l'ouverture de 1er, 2e, 3e et 4e sceaux, les premières, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes bêtes se font entendre en disant « Viens et vois ». Mais lorsque les cinquièmes, sixièmes, septièmes sceaux sont ouverts, on n'entend pas une telle voix. De même, les trois dernières églises et les trois derniers sceaux ne coïncident pas quant aux périodes qu'ils couvrent, contrairement aux quatre premières églises et aux quatre premiers sceaux. Mais, comme nous l'avons montré, les églises, les sceaux et les bêtes concordent en couvrant les mêmes périodes de temps, pendant près de 1800 ans. Jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à un peu plus d'un demi-siècle de l'époque présente. James White, Review and Herald, 12 février 1857.
Nous venons de citer trois des principaux pionniers de l'histoire millérite. Tous trois tenaient à l'interprétation correcte du « perpétuel » et ils adhéraient tous à la vue d'ensemble des églises, des sceaux et des trompettes, dans le cadre de la vérité que Miller fut amené à comprendre et à présenter.
Lorsque des hommes viendront qui voudraient déplacer ne serait-ce qu'une cheville ou un pilier du fondement que Dieu a établi par son Saint-Esprit, que les hommes âgés qui furent des pionniers dans notre œuvre parlent clairement, et que ceux qui sont morts parlent aussi par la réimpression de leurs articles dans nos périodiques. Rassemblez les rayons de la lumière divine que Dieu a donnée, alors qu'il a conduit son peuple pas à pas sur le chemin de la vérité. Cette vérité résistera à l'épreuve du temps et de l'adversité. Manuscript Release 770.
Le 11 septembre 2001, le puissant ange de l'Apocalypse, chapitre 18, est descendu et a commencé l'œuvre de ramener vers les anciens sentiers de Jérémie, chapitre 6, ceux qui accepteraient de recevoir et de manger le pain qui venait tout juste de descendre du ciel. L'alpha et l'oméga avaient besoin de ceux qui étaient disposés à s'efforcer d'être au nombre des 145 000, pour qu'ils comprennent que ce qu'il avait fait descendre du ciel le 11 août 1840 n'était pas simplement l'accomplissement d'une prophétie de temps, mais l'accomplissement de la prophétie de temps du deuxième malheur. Il avait besoin que son peuple redécouvre les anciens sentiers de l'histoire où il avait érigé le temple des Millérites durant les 46 années allant de 1798 à 1844. Cette histoire avait été couverte d'étritus, de fausses pièces et de faux joyaux. Cette histoire était obscurcie par un faux message fondamental qui avait été bâti sur le sable, et non sur le rocher des siècles. C'était dans l'histoire des Millerites, l'histoire où, comme Pierre le décrit, les Millerites, qui autrefois n'étaient pas un peuple, mais sont ensuite devenus le peuple de Dieu, ont été suscités et édifiés comme une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Le lion de la tribu de Juda est descendu le 11 septembre 2001 et a conduit son peuple des derniers jours dans l'œuvre de purification du temple de l'histoire de l'édification du temple des Millerites. Cette œuvre avait été préfigurée par une prophétie qui annonçait que le Seigneur susciterait un homme nommé Josiah, ce qui signifie « fondation de Dieu ». Quand Josias fut suscité en accomplissement de la prophétie du prophète désobéissant, il entreprit les travaux de réparation du temple qui était en mauvais état. Au cours des travaux de réparation et de nettoyage, la malédiction de Moïse fut découverte et, lue devant Josias, elle entraîna la réforme de Josias. Nous aborderons cette prophétie en lien avec la redécouverte des sept temps après le 11 septembre 2001. Nous commençons cette étude dans le prochain article.
Aussi longtemps que ceux qui professent la vérité servent Satan, son ombre infernale leur masquera la vue de Dieu et du ciel. Ils seront comme ceux qui ont perdu leur premier amour. Ils ne peuvent pas voir les réalités éternelles. Ce que Dieu a préparé pour nous est représenté dans Zacharie, chapitre 3 et 4, et 4:12-14. Et je répondis encore et lui dis, « Quelles sont ces deux branches d'olivier qui, par les deux tuyaux d'or, laissent s'écouler d'elles-mêmes l'huile dorée ?» Et il me répondit et dit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. » Le Seigneur est plein de ressources. Il ne manque d'aucun moyen. C'est à cause de notre manque de foi, de notre mondanité, de nos paroles vaines, de notre incrédulité, manifestées dans nos propos, que des ombres épaisses s'amassent autour de nous. Christ n'est pas révélé, ni par la parole ni par le caractère, comme celui qui est tout à fait aimable et le plus distingué entre 10 000. Lorsque l'âme se complaît à s'élever dans la vanité, l'Esprit du Seigneur peut faire bien peu pour elle. Notre courte vue aperçoit l'ombre, mais ne peut voir la gloire au-delà. Les anges retiennent les quatre vents, représentés sous la forme d'un cheval furieux qui cherche à se déchaîner et à se ruer sur la face de toute la terre, portant la destruction et la mort sur son passage. Dormirons-nous au bord même du monde éternel? Serons-nous engourdis, froids et morts? Oh, que nous puissions avoir dans nos églises l'esprit et le souffle de Dieu insufflé à son peuple, afin qu'ils se tiennent debout et vivent. Il nous faut voir que le chemin est étroit, et la porte étroite. Mais en passant par la porte étroite, son étendue est sans limite. Manuscript Releases, volume 20, 216-217.